Bon matin tout le monde. Alors, je suis content d'être parmi vous. Je vous invite à tourner dans la première lettre de Jean. On continue notre série sur la première lettre de Jean. Salutations à ceux qui nous regardent sur la toile ou qui nous écoutent via notre système électronique, soit en direct ou en différé. Je vous invite, je vous ai déjà invité, ceux qui nous écoutent sur la toile, si vous êtes à proximité de Gatineau, eh bien, venez faire un tour, venez nous voir. Savez-vous, l'image que ça me fait penser, c'est quand on va sur le bord de la mer, on peut regarder la mer ou on peut plonger, nager dans la mer, mettre les pieds dans l'eau. Eh bien, je vous invite à mettre les pieds dans l'eau. Vous allez voir, c'est rafraîchissant. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous partager, c'est se distinguer pour inspirer. Vous savez, on a dans notre jargon, à nous les chrétiens, hein, ce qu'on appelle notre témoignage. Eh bien, on est appelé à se distinguer pour inspirer spécialement dans notre génération. On est une génération qui, contrairement auparavant, entretient de plus en plus de la confusion. Vous entendez parler de plus en plus de ce qu'on appelle les fake news. Ce que le journal Le Soleil de Québec, le traduit par fausse nouvelle. Et savez-vous quoi? Moi, je me suis fait prendre par une fake news. Je vois ça. Ringo Starr avoue que Paul McCartney, le vrai Paul McCartney, a subi un accident de voiture en 1966 et s'est fait remplacer par un sosie. Alors, je dis, hey, c'est Ringo Starr qui dit ça, ça doit être vrai, là. C'était des rumeurs. Et, moi, je mets ça sur Facebook. Puis pourtant, j'ai fait de la radio, je vérifie mes sources, mais là, c'est comme trop excité par la nouvelle. Je dis, il faut que tout le monde apprenne ça. Un de mes amis qui m'envoie sur un autre site et dit, regarde, c'est pas vrai. Parce que le World News Daily est reconnu comme un site de divertissement. Mais le plus cocasse, c'est que le site va renvoyer la balle, puis là, Paul McCartney dit, non, hey, c'est pas vrai ce qu'il dit Ringo Starr. Il embarque. Et il y a plein de nouvelles comme ça. Du côté français, il y a le journal de Montréal, et non pas le journal de Montréal, mais justement, il a été poursuivi le journal de Montréal parce qu'il y a des gens qui se font prendre pensant que c'est des vraies nouvelles. Écoutez, sur le site du journal de Montréal, on voit par exemple un sous-marin nazi de la Deuxième Guerre mondiale découvert dans le lac Saint-Jean. Mais c'est à s'y méprendre parce que pourquoi le journal de Montréal poursuivait le journal de Montréal, c'est que leur logo est presque identique. Je me suis fait prendre à un moment donné, c'était une nouvelle qui concernait Céline Dion, je dis « pas vrai, elle n'a pas fait ça ». Puis là, mon ami Gaétan Leduc, il me dit « est-ce que tu as bien tapé journal de Montréal ou journal de Montréal ?» Je regarde sur le lien, hey, c'est journal de Montréal, je me suis fait avoir. Mais ça génère de la confusion, ces fausses nouvelles-là. Et le pire, c'est que c'est... Il y a toujours un petit quelque chose qui peut semer le doute. Dans plusieurs de... Ben, il y en a d'autres, c'est exagéré, parce que... je sais pas si vous vous souvenez l'histoire de... Ben, ça, c'est pas drôle, là, mais... Il y a des gens qui ont été dans un restaurant puis ont trouvé une carcasse d'animal. Mais là, le site du journal de Montréal... Ils ont sorti un gros pneu. Il dit, c'est ça qu'il a trouvé dans sa poutine, tu sais. Une espèce de gros pneu. Ben ça n'a aucun bon sens, là, tu sais. Ça, c'est du délire. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est que depuis l'histoire de l'Église, il y a des gens qui essayent d'infiltrer des faux renseignements, des fausses notions, des faux concepts à l'égard de Jésus-Christ. Et ça sème de la confusion. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, dans sa première lettre, il dit « Attends une minute, on va mettre les choses claires, les balises claires sur la personne de Jésus-Christ. » Parce qu'il y avait des gens qui disaient « C'est comme un peu un fantôme, c'est pas un vrai homme, c'est un esprit qui est recouvert d'une certaine matière, mais c'est pas un vrai homme. » Et on commençait à répandre toutes sortes de faux renseignements. et ça amenait de la confusion. Et si on n'est pas bien ancré dans les Écritures, c'est clair qu'on va se laisser convaincre par n'importe quoi. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole pour que justement on puisse avoir des points de repère clairs pour connaître ce que Dieu pense, ce que Dieu dit des choses. Christ, Jésus-Christ n'était pas 50 % homme, 50 % Dieu, 100 % homme, 100 % Dieu. Et c'est pour ça que Jean veut remettre les pendules à l'heure. Et ici, il veut corriger dans le chapitre 3, dans le passage qu'on va lire, les versets 7 à 10, de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser tromper par des fausses informations, de fausses informations à l'égard de Jésus-Christ et se laisser instruire et enseigner par sa parole. Et dans notre génération, où est-ce qu'il y a énormément de confusion, à plein d'égards, à plein niveau, il y a plein de choses qui s'enseignent de plus en plus, et de plus en plus que l'information est accessible à cause d'Internet, à cause de la toile, eh bien, il faut revenir continuellement aux textes, aux Écritures, les sonder, les scruter, les étudier, parce qu'on va entendre toutes sortes de choses de plus en plus étranges au cours des prochaines années, parce que c'est le plan de l'ennemi de créer de la confusion. C'est ce qu'il a fait dès le départ avec Adam et Ève dans le jardin. Créer de la confusion, semer le doute, dévier l'être humain de ce que Dieu dit des choses, ou juste un petit peu à côté. Et c'est un piège qui se répète. Vous savez, il va y avoir la légalisation de la marijuana là, l'an prochain, le 1er juillet 2018. Eh bien, encore là, la propagande du gouvernement, c'est on le fait pour pouvoir empêcher les jeunes de se faire avoir par le crime organisé. Premièrement, si c'était vrai leur motif, ils auraient suivi le conseil du comité qui ont dit qu'il ne faudrait pas légaliser ça avant 21 ans, parce que jusqu'à 25 ans, le cerveau du jeune n'a pas fini son développement, puis ça peut amener de plus grands dommages. Le gouvernement n'a pas écouté ça. Mais ce qui est le plus loufoque dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que le crime organisé a juste à aller chercher un numéro puis se mettre à le vendre d'une manière légalisée. Ça va être légal. Ils n'auront plus besoin. Ils vont continuer à le faire. Mais le crime organisé a juste à aller s'acheter un permis puis ils vont pouvoir en vendre. Puis maintenant, ils vont faire du profit légalement. Alors, c'est pas vrai que ça va freiner le crime organisé. Au contraire, ils vont être encore plus riches. Ils vont pouvoir avoir de l'argent des deux bouts. Mais savez-vous ce qui m'inquiète le plus, mesdames et messieurs? C'est ce qui s'est passé au mois de juin, au Cornerstone Christian Academy. Juste pour vous dire comment on est dans une ère de confusion et qu'au bout de la ligne, cette confusion-là va finir par nous atteindre, le peuple de Dieu. C'est une école privée chrétienne qui enseigne la Bible aux jeunes, en plus d'enseigner les mathématiques, l'anglais, la géographie, l'histoire. Et parce que sur son site, il y avait le passage d'1 Corinthiens 6:9 qui condamne l'immoralité, eh bien, les autorités scolaires de Battle River leur ont dit de retirer ce passage-là. En d'autres mots, et là, l'école dit, oui, mais nous, on est sous l'égide, on est régi sous la Charte des droits et libertés. Oui, mais ce passage-là dérange. Et l'Alberta, c'est la province la plus conservatrice du Canada. C'est inquiétant, mesdames et messieurs. Et ça va être important d'être solidement ancré dans la parole de Dieu parce que la pression va être de plus en plus forte et la confusion risque d'entrer dans plusieurs églises si on ne laisse pas le Seigneur nous fortifier, nous instruire, nous solidifier. Et c'est pour ça que dans ce monde de confusion, ce qui va nous amener à être inspirés, c'est de découvrir et de connaître jour après jour la personne de Jésus-Christ pour qu'il puisse se manifester au travers de nous dans une génération qui n'a plus de point de repère. Et c'est pour ça ce qu'on va voir, ce qui est trois éléments qu'on va voir. Quelles sont les balises d'un chrétien inspirant ou d'un chrétien qui est authentique? Eh bien, il est juste comme Christ est juste, il ne pratique pas le mal, puis il pratique la justice et aime son frère. Et ces trois éléments qu'on va voir ensemble au travers le texte qui vont nous amener, et c'est ce que je souhaite, c'est ma prière, à ce qu'on puisse adorer de plus en plus le Seigneur puis la beauté de son évangile. Recueillons-nous, s'il vous plaît, pour que la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Seigneur, tu nous appelles, comme Paul le dit, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, à célébrer la gloire de ta grâce, la gloire de cette bonne nouvelle, la gloire de l'Évangile. Puisses-tu nous émerveiller aujourd'hui, Seigneur, nous émerveiller par ta parole, nous émerveiller par ta justice, nous émerveiller par ton Évangile. Plusieurs d'entre nous, ça fait pas des années qu'on entend le message, des décennies. Mais rafraîchis-nous ce matin, renouvelle notre intelligence. Que ce soit aujourd'hui une journée de célébration autour de ton Évangile. On te le demande dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus. Amen. Le chapitre 3 commence avec « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » On l'a partagé ça et nous le sommes. « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et donc, en d'autres mots, le point de repère pour connaître Dieu, c'est un chrétien ou une chrétienne. C'est par nous que Dieu se révèle. Évidemment, au travers, en communiquant sa parole, mais il utilise un être humain. Il n'envoie pas les anges annoncer l'Évangile. C'est les êtres humains qui utilisent. Et plus loin, il va justement décrire c'est quoi un chrétien authentique et inspirant. Il va dire au verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Et donc, l'apôtre ici, l'apôtre Jean, va nous donner des points de repère sur ce que c'est un chrétien authentique et inspirant. Et il va mettre en garde les chrétiens de se laisser berner, de se laisser envoûter, de se laisser séduire, de se laisser tromper par toutes sortes d'autres philosophies qui viennent pour brouiller les cartes. Et c'est pour ça que le chrétien authentique et inspirant se distingue premièrement en ce qu'il est juste comme Christ est juste. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Et donc, c'est intéressant, dès nos premiers pas, dès le début de notre vie chrétienne et tout au long de notre vie chrétienne, on est appelé à pratiquer la justice comme Christ est juste. Et pour ça, eh bien, il faut être en garde parce que l'ennemi, continuellement, cherche à nous égarer. Vous savez, dans les Proverbes, c'est écrit à deux reprises, 14-12 et 16-25. 14-12 et 16-25. Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Il n'y a rien de pire que de penser être dedans alors qu'on ne l'est pas dedans. Puis moi, je regarde ma vie de jeune père, il y a quelques années de cela, puis je pensais tellement être dedans. Puis je regarde aujourd'hui les effets de ce que je pensais être dedans, puis je me dis, oh là là, j'étais pas dedans. Et ça a pris des années pour que je puisse le voir. Je puisse voir que je ne l'avais pas tant que ça l'affaire. En tout cas, pas autant que je pensais que je l'avais. Et continuellement, c'est pour ça que c'est important de se laisser mettre en prière et de laisser le Seigneur nous reprendre parce que on est facilement égarable. On s'égare facilement. Et c'est pour ça que ça a été cité durant les louanges, 1 Corinthiens 10, 12. « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » On n'est pas à l'abri de s'égarer. Personne n'est à l'abri. Et moi, à chaque fois que j'entends qu'un frère, et spécialement des frères ou des sœurs d'apparence solide que je les vois, qui s'éloignent de la foi, s'éloignent du Seigneur, un, ça me brise le cœur, mais deux, savez-vous qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Seigneur, protège-moi parce que ça pourrait être moi le prochain. Vous savez, moi, j'aime avoir un GPS dans ma voiture, surtout dans la région ici, et surtout dans la ville d'Ottawa. Moi, je suis habitué à Montréal, les lignes sont droites. C'est nord, sud, est, ouest. Alors, quand tu prends une rue, elle est en ligne droite. C'est très rare qu'il y ait des S, des courbes, c'est droite de haut en bas, de long en large. Mais à Ottawa, c'est pas ça. Fait que moi, je suis désorienté. Mais savez-vous quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de mettre le GPS, puis le GPS ne vous amène pas au bon endroit ou vous fait prendre un chemin qui n'a pas rapport? Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est plate. Et c'est pour ça que la même chose avec Dieu, il faut continuellement revenir aux Écritures parce qu'à un moment donné, si on se fie seulement à ce qu'on voit puis à ce qu'on pense, on va s'égarer. On a besoin de cette source-là. Et on a un ennemi qui désire à ce qu'on s'égare. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu au début du chapitre, c'est par nous que les gens vont arriver à connaître Dieu. C'est pour ça qu'on a un témoignage à rendre par notre vie, mais aussi d'expliquer comment le Seigneur est venu nous visiter puis comment il nous a sauvés. Et il y a un autre aspect dans ce verset-là, c'est le mot « justice ». Il faut faire attention parce que ici, dans le passage, on parle de justice et chacun de nous, on a une définition interne à ce que c'est la justice. On entend, par exemple, les politiciens dire « c'est important que les citoyens payent leur juste part ». Pour certains, qu'il y ait 30 000 avortements par année au Québec, c'est quelque chose de juste, c'est un droit. Pour d'autres, par exemple, la justice, c'est de payer plus d'impôts pour avoir plus de programmes sociaux. Pour certains, la justice, c'est donner à Centraide une fois par année ou déménager ses proches le 1er juillet. Pour d'autres, la justice, c'est d'adoucir les peines des criminels. Mais savez-vous quoi? On commence à voir le concept de justice se définir un peu plus clairement à partir de Genèse 9. On le voit auparavant, mais là, il commence à prendre forme sur le plan social quand Dieu va dire à Noé, lorsque le déluge a eu lieu, Noé commence à rebâtir un nouveau monde. Qu'est-ce que Dieu donne à Noé? C'est toute la question de vie pour vie. Si quelqu'un enlève la vie de quelqu'un, sa vie va lui être redemandée. Et après ça, on voit qu'il se définit un peu plus quand la loi arrive. Et il y a un principe qui découle de là, c'est œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, où est-ce qu'il devait avoir restitution? Mais sous la nouvelle alliance, le concept de justice est amélioré. Il y a une portée plus large. Sous la nouvelle alliance, c'est que tu es coupable, mais je vais payer pour toi. Jésus-Christ donne sa vie pour ses ennemis, donne sa vie pour des coupables, donne sa vie en rançon. C'est pour ça que Jésus va dire, écoute, si on te demande de faire un mille, fais-en deux. Fais du bien à tes ennemis. Il nous amène à un concept de justice qui est tellement élevé que ce n'est pas humain, c'est surnaturel. c'est pas normal d'aimer son ennemi. C'est pas normal de vouloir faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal. Je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 12. Et tout au long, justement, de l'épître aux Romains, on voit ce principe-là de justice que Paul essaie de nous inculquer d'une manière tellement magistrale, spécialement au chapitre 4, comme quoi Dieu est juste de nous rendre juste, même si on est injuste. Mais quand Jean parle du concept de justice, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. On est sous la Nouvelle Alliance. C'est le concept de justice où est-ce que qui est né de Dieu. Où est-ce que je rends pas ce qui est égal? Je fais du bien à celui qui ne le mérite pas. Si je suis juste devant Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Je ne méritais pas d'être sauvé, mais Jésus-Christ a payé pour moi. Dans Romains chapitre 12, le verset 14, ça nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. » Ça, c'est la justice humaine. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et ça, c'est le principe de justice de la Nouvelle Alliance. Humainement, c'est impossible de vivre authentiquement. C'est seulement par l'Esprit de Dieu en nous, c'est seulement cette nouvelle nature en nous, l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à aller là. C'est son œuvre en nous. Dieu avait donné la loi pour montrer justement qu'on est digne de mort, que sur le plan de la justice, on est condamnable de A à Z. Paul, c'est ce qu'il va dire aux Galates, dans Galates chapitre 3. Il a donné la loi pour nous conduire à Christ, pour qu'on arrive à la conclusion que je suis digne de mort. Mais Dieu nous a donné son Fils, justement, pour dire, t'es digne de mort, moi je te rachète. Je vais amener un principe de justice plus élevé et je vais payer pour toi. Oui, mais Seigneur, et c'est là que tous les enfants de Dieu ont réalisé par le Saint-Esprit que, waouh, je ne mérite pas ça. Je mérite la condamnation. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui écoute ou qui voit la vidéo, pour nous, c'est une bonne nouvelle d'être trouvé coupable. Parce que Jésus-Christ a racheté nos fautes. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, ce n'est pas de donner à chacun ce qui lui est dû. C'est de donner ce que Dieu veut qu'on donne aux autres. Et moi, à chaque fois que j'ai vu des gens avoir cette attitude-là envers moi, ça m'a tout le temps fait du bien. Je me souviens à un moment donné, voulant bien faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de « tu veux bien faire, mais dans le fond, ça revire en boîte? » Tu sais, t'as un bon motif, t'as une bonne intention, mais ça blesse l'autre. Moi, ça m'arrive, ça. À un moment donné, il y a un frère dans l'église qui avait une perruque, mais elle commençait à être usée pas mal, honnêtement. Puis moi, à ce moment-là, j'arrivais tellement pas, j'avais tellement peu de revenus. Puis je suis allé voir une sœur que je savais qu'il y avait de l'argent. Je dis, écoute, je veux te confier quelque chose. Est-ce que ça vaudrait la peine d'investir puis d'aider financièrement? Parce que lui, le frère aussi, n'avait pas d'argent pour se racheter une perruque, t'sais. Puis on prie là-dessus. À un moment donné, j'en parle au frère, puis il me dit, « T'aurais jamais dû dire ça. Ça ne t'appartient pas. Mêle-toi de tes affaires. » Ah, ça m'a brisé le cœur. J'étais là, je te demande pardon. C'est comme si je venais de sentir que j'avais comme trahi un secret, mais que tout le monde voyait. Là, tu sais. Non, mais c'est ça. Mais je me sentais mal. Mais savez-vous quoi? J'ai demandé pardon, frère, il m'a pardonné. Tu sais. Mais là, j'étais là, je l'ai blessé, je l'ai trahi, je me sentais tellement cheap. Pas longtemps après, je me retrouve dans une situation. Qu'est-ce qui arrive? Il défend ma cause et il se lève en ma faveur. Je fais wow. Ça, c'est la justice selon Christ. Il n'a pas tenu compte de mon erreur, il n'a pas tenu compte de la blessure que je lui ai infligée. Il s'est tenu debout parce que c'était ça qui était droit, puis c'était ça que le Seigneur lui demandait de faire. Moi, j'en ai bénéficié. Imaginez-vous l'impact qu'on peut avoir dans nos milieux, dans nos familles, dans nos lieux de travail, si ce style de justice-là prenait encore plus en plus de place dans nos vies. Moi, c'est ce que je veux. Écoutez, mon réflexe premier, je suis chez Costco. Je tourne comme ça, je vois la troisième place est libre, je mets mon clignotant. Parce que je sais que pour eux autres, il y en a qui ne savent pas c'est quoi un clignotant. C'est un petit manche qui se lève, puis ça dit si tu tournes à gauche ou à droite. Mais ça m'arrive dans les routes ici, il y en a qui ne savent pas il est où le petit manche, parce qu'ils ne l'utilisent pas. Anyway. Mais le gars, il rentre par la droite, puis essaie de me passer. Moi, je m'en vais tourner. Je mets le pied sur le frein. Là, je viens rouge, là. Ma femme est à côté de moi. Le gars passe, je me stationne, je vais aller le voir. Je rouvre la porte. Ma femme me dit, non, comment, Eric, ça peut tourner mal. Mais t'appelleras le 911. Moi, j'étais là. Wow! On a failli avoir un accident. Espèce de cave. Là, dans ma tête, je suis comme ça. Ça vous arrive pas, vous, des fois? Y a-tu juste les pasteurs qui sont comme ça ou quoi? Non, mais tiens. Fait que là, tu sais, ma femme a réussi à me calmer, tu sais. Eric, on s'en va chez Costco, là. Moi, ça, c'est mon système de justice. J'aurais réglé ça. Genre, je me serais pas battu avec, mais je l'aurais regardé dans les yeux, et je disais, écoute, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi, là? Ça, c'est Eric à son naturel. Le Seigneur peut me donner d'être doux, d'être compassionnel, mais d'autres fois, il en dirait que c'est le lion qui sort en moi. Là. Oh, wow! Mais imaginez si j'avais été le voir, puis je serais rentré chez Costco, j'aurais été chercher un cornet de crème glacée, puis j'aurais dit, écoute, t'es stressé, hein? Je pense que t'as besoin là, de ça. Ça aurait été la justice selon Christ. Que le Seigneur continue à travailler mon cœur. Moi, je le vois, mon cœur. Je pourrais vous en raconter d'autres, là, comme devant chez l'abbé, là, mais en tout cas, c'est assez avec celle-là. Puis des fois, je me dis, tu sais, l'autre fois, le gars, c'était à moi passé, mais le gars, il coupe, puis là, je suis là. Puis je me dis, là, ça me tentait de baisser ma fenêtre. Puis d'un coup, c'est quelqu'un qui va à l'église, mais je ne l'ai pas reconnu. Non, mais ça se peut. Moi, des fois, quand, même, à un moment donné, je vois un couple. Moi, quand je suis dans un magasin, je suis dans ma bulle. Je suis comme dans ma bulle. Il y a quelqu'un qui me dit, bonjour Eric. Hein? Oui, vous êtes qui? Ben, on s'est vu à l'église. Ah, OK, j'allume. Tu sais. Enfin, je me dis, il faut que je fasse attention à ça. Tu sais. Quelle niaiserie je fais pas. Alors, okay. Il se distingue en ne pratiquant pas le mal. Celui qui pratique le péché est du diable, verset 8. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ici, si on le lit comme ça, il ne faut jamais oublier que quand on lit une traduction. Et il y a des éléments dans les textes originaux qui nous échappent quand on traduit. Et aussi, il y a des temps de verbes. Je ne veux pas rentrer dans toute la technicalité de ça, mais il y a des temps de verbes qu'on n'a pas en français. Donc, des fois, la traduction, ce n'est pas que c'est une mauvaise traduction, mais il faut mettre le passage dans son contexte. Et qu'est-ce que l'auteur voulait dire par là? Kenneth Weiss va le traduire comme ça, d'une manière vraiment plus littérale. Celui qui fait du péché son entreprise ou qui pêche sans cesse provient du diable, parce que dès le début, le diable a fait du péché son entreprise ou sa carrière. Et il continue à le faire d'une manière consistante. Christ, pour sa part, est venu désamorcer, dévisser, dissoudre, défaire les liens qui lient ensemble les chaînes du mal à notre cœur. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui, continuellement, d'une manière répétitive, va pécher. Et n'oubliez pas au verset 1, il va pécher parce que pour lui, c'est pas mal. Il ne laissera pas la lumière de Dieu l'éclairer. En d'autres mots, il va justifier sa faute. Donc, quelqu'un qui est continuellement, qui vit dans le mal, dans le péché, mais qui ne le voit pas comme étant mal, à ce moment-là, dit non, c'est, il ne se comporte pas, il n'agit pas comme un enfant de Dieu. Évidemment, je veux dire, tous les jours, on va pécher. Parfois, on s'en rend compte, d'autres fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, moi, c'est des années plus tard, je me dis, j'ai été bien bizarre d'avoir agi comme ça. Ça se fait pas. Mais au contraire, le chrétien qui est dans la lumière, là, pourquoi au chapitre 1, il dit « Celui qui est dans la lumière, le sang de Christ le purifie » parce que justement, il sait combien il est sale devant Dieu, combien il est pécheur. Mais encore une fois, si tu nous écoutes puis tu dis « Ouais, mais vous autres, vous focussez sur le mal puis il y a tellement d'affaires avec son mal. » Non, c'est libérateur. C'est libérateur de dire « Hey, il y a quelqu'un qui me pardonne. Il y a quelqu'un qui rachète cette faute-là. » Comment ça s'appelle? Go-junk? Tu sais, t'appelles, il vient chercher tes... Seigneur, ouais, viens-t'en, go-junk, amène-moi ta junk, amène-moi là, tes saletés, j'ai payé pour ça. C'est libérateur, ça. Il y a une personne en qui je peux me confier, je peux ouvrir mon cœur, je peux être transparent, je peux être honnête, puis dire, sais-tu quoi, Seigneur? J'ai passé à côté. Et l'accueil qu'il a, c'est extraordinaire. Dieu, et la bonne nouvelle au travers de tout ça, c'est que la deuxième partie du verset 8, c'est que Christ, pour sa part, est venu désamorcer ou dévisser, dissoudre, défaire les liens qui lient ensemble les chaînes du mal à notre cœur. Son intention à Dieu, le plan de Dieu, c'est de nous libérer. Il y a des fois, ça prend des années parce qu'il y a des raisonnements, il y a des concepts, il y a des blessures, il y a des chaînes qui nous gardent captifs. On a l'impression que quand Dieu veut opérer quelque chose dans notre cœur, dans notre délivrance, on a l'impression qu'il est contre nous. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 8, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Il veut nous rappeler que vois le Seigneur comme étant pour ton bien. Et ici, il ne nous fait pas juste dire dans le passage, arrêtez de faire le mal. Il est en train de nous dire, regarde, tourne-toi vers le Seigneur. Recherche-le. Lui, c'est le libérateur. Et à chaque fois qu'on expérimente une libération de Dieu, ça produit une joie et on peut témoigner de ce que ça ne vient pas de nous. On a une part à jouer, oui. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, parfois on n'a pas de mots pour dire, je peux juste te dire que c'est lui qui l'a fait. Et ça devient inspirant, parce que plus on va être libéré par Jésus-Christ, plus on va être libre. Et plus on va être libre, moins on va mettre des fardeaux sur les autres. Plus on va s'attendre à Dieu, plus on va passer du temps dans la prière pour voir les gens libérés, plus on va chercher à être à l'écoute pour savoir, attends une minute, au-delà de sa réaction, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous gagne. Dans Hébreux 13, les versets 20-21, Hébreux 13, 20-21 nous dit, « Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, qu'il vous rende capable pour toute bonne œuvre, c'est lui qui nous rend capable pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est incroyable comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux renforce le point. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par qui? Par Jésus-Christ. Ça ne peut pas être plus clair. Il veut faire une œuvre en nous. Puis c'est de nous dégager des chaînes du mal, nous délier des chaînes du mal. Pourquoi? Pour qu'on puisse pratiquer la justice puis aimer notre frère. Pour que les gens puissent voir qu'on est animé d'un amour qui est surnaturel. Et c'est ça qu'on voit au prochain verset, au verset 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En d'autres mots, quiconque n'est pas habituellement en train de faire justice n'est pas né de Dieu. Aussi celui qui n'est pas habituellement en train d'aimer son frère. Et donc, l'amour, c'est la justice en action. L'amour se traduit justement, et Jésus, c'était toujours sur ce clou-là qui martelait. Quand il rencontrait les autorités juives à son époque, les docteurs de la loi, puis les autorités religieuses, ils martelaient continuellement sur ce nouveau concept de justice. Puis il l'a même dit à ses disciples, Jésus dit, « Il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Il faut que ça surpasse œil pour œil, dent pour dent. Il faut que ça surpasse. Tu repayes en retour. » C'est à ça que je vous appelle. Dans Luc 14, les versets 12 et 13, Luc 14, Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour pour leur rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » Luc 6, 27, « Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Vous savez, je ne sais pas, moi, il y a peut-être quelqu'un au bureau qui est toujours méprisé, qui est à part des autres. Tu vas aller le voir, tu lui parles, tu lui donnes de l'attention, tu es patient avec lui. Ça parle, ça. Ça parle. C'est un défi, mais savez-vous quoi? Ce défi-là, on va pouvoir le rencontrer en laissant Dieu travailler nos vies. Et en conclusion, si on nous reconnaît comme étant juste, en pratiquant pas le mal et en aimant notre frère, eh bien, c'est clair qu'on va avoir un impact dans notre milieu. Moi, je me souviens, je travaillais dans un marché d'alimentation, puis j'étais en charge des produits réfrigérés et congelés. Mais pour aller dans le congélateur puis dans le frigidaire, il fallait que je passe par la boucherie. Puis le chef boucher, lui, il a su à un moment donné que j'étais chrétien, puis il me narguait puis il me niaisait. Vous savez, dans les proverbes, ça dit à un moment donné, « Réponds pas à l'insensé selon sa folie, parce que faut pas, pour pas lui ressembler. » Mais l'autre verset suivant dit « Réponds à l'insensé selon sa folie pour qu'il y ait de la cave. » Traduction dans mes mots. Là. Et à un moment donné, je me taisais, je faisais ma job. Puis là, il n'arrêtait pas de me narguer. « Hey, toi le chrétien, ben, toi aussi bien. » Là, à un moment donné, il en a lancé juste une de trop. J'étais calme. J'étais vraiment calme. J'étais pas comme avec le gars là, dans le stationnement. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, sais-tu quoi? On va l'appeler Gustave. Parce qu'il y a personne qui s'appelle Gustave ici. On va l'appeler Gustave. Gustave, sais-tu quoi? Je suis chrétien, mais je suis pas crétin. J'ai continué. Et le gars, après ça, il faisait attention. Mais il me lançait quand même quelques craques de temps en temps. Hey, vous autres, les chrétiens. Tu sais. Et quand j'ai donné ma démission et que mon poste était affiché, il est venu me voir et il a dit, Éric, tu t'en vas? Je dis, ouais. Il m'a serré la main et dit, on est deux gars colorés, mais sais-tu quoi, tu vas me manquer. Savez-vous, moi, ça m'a tellement touché parce que je pensais qu'il me méprisait. Mais dans le fond, c'était juste une mascarade. Puis il ne faut pas se laisser impressionner. C'est ça qu'Ézéchiel nous dit au chapitre 2 et 3, de ne pas se laisser impressionner par le non-verbal des gens. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Mais si on peut laisser nos cœurs travailler par le Seigneur, le laisser nous délier les chaînes qui nous rendent captifs, le laisser travailler pour nous amener à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Puis comme je vous dis, c'est surnaturel. Essayez pas de le faire par vous-même. Un, ça va sonner faux, ça va avoir de l'air faux. Et les gens le détectent, ça, quand c'est faux. Mais quand c'est fait d'une manière surnaturelle, ça a un impact surnaturel. Et c'est pour ça qu'on est appelé à se distinguer. À se distinguer, pas pour se conformer à un genre de modèle selon notre conception, mais se distinguer par une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Puis savez-vous quoi? On va avoir un laboratoire ici à l'Église Le Sentier pour pratiquer l'amour et les œuvres de justice, les groupes connexions. Les groupes connexions, ce n'est pas conçu pour recevoir seulement, mais pour donner également. Parce que dans les groupes connexions, oui, il va y avoir un enseignement, un court enseignement, mais après ça, il va y avoir des partages, il va y avoir des questions qui vont être posées pour amener l'aspect pratique. Puis chacun, dans son expérience, va pouvoir collaborer. Puis après les rencontres, vous allez peut-être même avoir des discussions, prendre un café, parce que un parent plus expérimenté, qui a plus d'âge, peut parler à un autre parent qui a des jeunes enfants, dire « Écoute, fais-toi-en pas, c'est normal. Puis regarde, tu vas passer au travers. » Puis ça va amener des liens, ça va amener à donner ce qu'on a reçu. On reçoit beaucoup. Les chrétiens qui sont engagés reçoivent beaucoup. Puis là, ça va être un moment pour donner, chacun dans ses dons. Et essayez pas d'être comme l'autre à côté. Donnez simplement ce que vous avez reçu. Quand le Seigneur a fait la multiplication des pains et des poissons, les disciples ont amené les poissons qu'il y avait, ils les ont multipliés. Laissons Dieu créer l'impact. Puis c'est pour ça que plus que Jésus-Christ va être mon inspiration, plus que je vais être une influence. Que ce soit dans les groupes connexion, que ce soit à la maison, dans mon lieu de travail, dans mes cercles d'activité, partout dans l'Outaouais et même dans la francophonie. Parce que moi, je suis convaincu que cette Église-là est appelée à avoir un impact et à rayonner partout dans la francophonie. Moi, je suis arrivé plus tard que beaucoup d'entre vous ici. Mais savez-vous, de l'extérieur, je vois tellement de dons, je ne parle pas financiers, là, de dons d'individus qui sont doués, qui sont talentueux. Et si le Seigneur vous a appelé ici, c'est parce qu'il va avoir un impact sur le plan individuel, chacun de nous, mais aussi sur le plan collectif. Comme une équipe sportive, comme une équipe de hockey. Des fois, il y en a un ou deux qui marquent des buts, mais c'est toute l'équipe qui gagne. Et c'est pourquoi, si on se laisse influencer par Jésus-Christ, on peut avoir un impact. Et si on laisse son concept de la justice travailler nos cœurs, eh bien, c'est clair que les gens vont voir, non pas quelqu'un qui pratique une bonne religion, Donc, pas quelqu'un qui pratique une bonne moralité, mais quelqu'un qui est animé d'un esprit qui est différent, qui est inspirant et qui est authentique. Parce que ça peut venir que de Dieu. J'inviterai les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît. Et on va se recueillir quelques instants pour que le Seigneur puisse nous donner d'une manière pratique d'aimer nos ennemis. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas quelque chose que humainement je suis apte, mais demandons-le à Dieu pour qu'on puisse être témoin de ce qui accomplisse ce qui lui est agréable en nous. Levons-nous et recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es pour nous, tu es en notre faveur. On ne mérite pas de ce que tu œuvres dans nos cœurs pour nous libérer, pour nous délier, pour nous déchaîner. Mais on te demande qu'on puisse d'abord être nous témoins de ce que tu nous donnes au-delà de ce que notre cœur considère être juste. Tu nous fais du bien au-delà de ce qu'on mérite pour que cette vie et le témoignage de cette justice surnaturelle puissent traduire par des actes de bonté. Seigneur, merci de le faire dans nos cœurs. Merci de le faire parce que c'est ce qui va nous amener à rendre hommage à ton évangile, à ta bonne nouvelle. À chaque fois qu'on est l'objet de ta grâce, à chaque fois qu'on est l'objet de ta bonté, à chaque fois qu'on est l'objet de ta miséricorde, à chaque fois que tu ne nous traites pas selon ce qu'on mérite, Seigneur, on est émerveillé, puis on te dit merci que c'est ainsi. Merci, Seigneur. Merci de le produire en nous. Merci d'amener des gens à te connaître au travers de notre vie, parce qu'on veut que ce soit ta vie au travers de nous qui les touche. Produit un réveil dans cette région de Gatineau et que ça puisse avoir un impact dans la francophonie. Je te le demande pour la gloire de Jésus, Seigneur. Amen.